En fait, quand tu vas chercher un bubble tea, c'est pas juste le bubble tea, quoi. Déjà, faut être un peu connaisseur quand t'arrives. Faut que tu dises sans glaçon, sucre moyen, non. Tu dois dire ta commande, le topping et tout. Ça peut être un peu intimidant. Parfois, ils te passent aussi le petit beeper et c'est vraiment super cadré, en fait. Tu peux pas rentrer dans un bubble tea, avec confiance en tout cas, si tu ne sais pas comment ça se passe. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens qui aiment les bubble tea l'aiment autant. Parce qu'on se sent un petit peu spécial.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est l'histoire d'une boisson qui avait tout pour être sirotée entre grand-mères et qui finalement est devenue un symbole de fierté pour beaucoup de jeunes asio-descendants vivant en Occident. Le bubble tea. Il y a quelques années, ce nom vous aurait sûrement interloqué. Le bubble quoi ? Aujourd'hui, les bubble tea shops fleurissent aux quatre coins de la France, en particulier à Paris où il est très apprécié, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE. Non, je plaisante, si l'on en croit plutôt les files d'attente devant certains commerces ou encore le nombre de jeunes qui se baladent avec un gobelet à la main dans le 13e arrondissement le dimanche après-midi. Dans cet épisode, je m'entoure de Aveline, alias Impératrice Wu ou Hunter Gourmet sur les réseaux, grande fan de bubble tea. Régulièrement, Aveline conseille des adresses de bubble tea shop à Paris à sa communauté très friande de ses recommandations. Elle nous raconte comment cette boisson est entrée dans sa vie.
Alors au départ, le bubble tea, c'est la première fois que j'en ai bu, j'avais 13-14 ans, c'était en Chine, ça n'existait pas encore les bubble tea en France, il n'y en avait pas du tout. Et du coup, c'était un petit bubble tea shop, je me rappelle, dans une rue un peu paumée, c'était 5 yuan, donc à l'époque 50 centimes, et il n'y avait qu'un seul goût. Et du coup, c'est ma cousine en Chine qui m'a fait découvrir cette boisson, et j'ai trouvé ça vraiment super bon, vraiment, c'était pour moi le bon équilibre thé, enfin il y avait le côté un peu l'amertume du thé avec la douceur du lait, les boules de tapioca, c'était vraiment nouveau pour moi et j'ai tellement apprécié ça que j'ai demandé à ma cousine de me ramener là-bas, enfin d'y retourner tous les jours et on y est vraiment retourné très très souvent et le truc c'est que quand je suis rentrée en France, bizarrement j'y ai plus pensé, c'était je suis passée à autre chose. Pour moi c'était vraiment un souvenir associé à la Chine et une fois arrivée en France, bah j'ai pas vraiment cherché à continuer à en boire. Puis, comment c'est vraiment entré dans ma vie, quand je suis arrivée au lycée, peut-être vers 15 ans environ, et c'est à Belleville et au 13e qu'il y a eu les premiers bubble tea shops, il me semble. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des bubble tea au 13e et j'ai recommencé à en consommer très régulièrement avec mes amis, du coup, après les cours, par exemple.
Un bubble tea, c'est donc un thé au lait que l'on peut déguster chaud ou froid, le plus souvent agrémenté de billes de tapioca, ce qui lui vaut également le nom de thé aux perles. Si vous pensez que cette boisson est née dans l'esprit d'un entrepreneur des temps modernes, détrompez-vous. Le bubble tea existe depuis les années 80 à Taïwan, dans des chaînes de boissons à emporter très populaires chez les jeunes de l'époque. À l'origine, on parle de bubble tea, de thé à bulles donc, parce que le mélange du thé fraîchement infusé, du lait et du sucre, était énergiquement remué dans un shaker avec des glaçons, et ce qui en ressortait, c'était une boisson mousseuse. Aujourd'hui, la plupart du temps, les bubble tea que l'on trouve dans le commerce sont préparés à partir de poudre industrielle. Mais l'autre caractéristique du bubble tea, ce qui fait qu'on peut le personnaliser à l'envie, c'est son topping, qui, comme son nom ne l'indique pas, est l'ingrédient qui va se retrouver non pas au-dessus, mais au fond de la boisson. La plupart du temps, il s'agit des fameuses billes de tapioca, ces billes noires qui ajoutent à la boisson une texture mi-moelleuse, mi-gluante, que l'on appelle QQ, parce qu'elles se mâchouillent comme du mochi. Les billes de tapioca ne sont rien d'autre que l'amidon qui vient de la racine de manioc, qu'on roule en boule avant de le cuire, bouilli dans du sucre, jusqu'à ce que les billes deviennent brillantes et translucides. Ce que j'aime avec le bubble tea, c'est que c'est à la fois une boisson et un goûter qui se mangent grâce aux billes de tapioca. Pour Aveline, difficile de choisir le meilleur bubble tea shop de Paris. Pour se différencier les uns des autres, ils sont nombreux à proposer leur spécialité. Certains cultivent même l'exclusivité en vendant des boissons que seuls les connaisseurs commandent, puisqu'ils ne se trouvent pas sur la carte. Ça a longtemps été le cas du Singapour, un bubble tea au café que l'on peut demander chez Chatime. Depuis, la boisson a été inscrite officiellement sur la carte. Selon Aveline, chaque bubble tea shop excelle dans une boisson plus qu'une autre.
Honnêtement, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort, tester d'autres choses. Mais au final, je reviens toujours au thé au lait. C'est toujours le meilleur pour moi. Mais après, on peut encore discuter des différents bubble tea shops. Et pour moi, chaque bubble tea shop a un peu sa spécialité. Il y en a qui sont meilleurs en fruits. Il y en a qui sont meilleurs en lait. Il y en a qui, leur spécialité, par exemple, c'est la crème brûlée. Donc vraiment, c'est difficile de choisir un bubble tea préféré. Mon adresse préférée pour les bubble tea classiques au lait, c'est Laizé. Je pense que toute personne qui connaît un petit peu les bubble tea connaît cette adresse. Ça se trouve à Rambuteau. Et je trouve vraiment que leur thé est vraiment super bon et de très bonne qualité. Et il n'est pas trop sucré à mon goût. En fait, c'est juste l'excellence du bubble tea classique pour moi, Laizé. Et Laizé, c'est ceux au lait que je préfère. Mais sinon, j'aime bien pour les thés aux fruits, c'est-à-dire sans lait. J'aime bien Tiami, qui se trouve vers Pyramide. Ensuite, j'aime aussi beaucoup Machi Machi pour leur bubble tea crème brûlée. Donc, c'est une vraie crème brûlée au-dessus, en fait. Donc, c'est quasiment un dessert. Un autre bubble tea shop qui m'est revenu en tête, que j'aime beaucoup aussi, c'est Shodai Matcha pour les bubble tea au taro. Mais sinon, il y en a tellement. En fait, ils les aiment tous parce qu'ils ont tous un petit peu leur spécialité. Si t'as envie, par exemple, d'un brown sugar, tu vas dire, je vais à Shinfuthan. Si j'ai envie d'un bubble tea au taro, je vais à Shodai Matcha. Vraiment, c'est suivant les envies, en fait.
Mais alors, comment ce thé au lait agrémenté de billes de tapioca a pu devenir un tel objet culturel, un signe distinctif, une boisson fièrement consommée par de nombreux jeunes d'origine asiatique et vivant en Occident? Peut-être tout simplement parce que sa fabrication simple et rapide en fait un produit duplicable à l'infini, dans de nombreux pays d'Asie comme Taïwan, la Chine, la Corée du Sud ou encore les Philippines et le Vietnam, mais aussi dans des grandes villes en Europe et aux États-Unis, surtout celles qui accueillent une grande communauté asiatique. De Montréal à Berlin, en passant par Paris, on trouve donc des bubble tea shops un peu partout. D'un point de vue esthétique, un bubble tea est aussi une boisson tout de suite reconnaissable. À son verre transparent, assez large, qui dévoile la couleur pastel de la boisson, par exemple violet pour le taro ou encore vert pour le matcha, ses billes, le tout avec la grosse paille colorée qui dépasse. C'est la raison pour laquelle tant de gens se photographient avec un bubble tea à la main, le selfie bubble tea étant un classique des réseaux sociaux. Pour Aveline, il y a vraiment un sentiment de fierté à se balader dans la rue avec un bubble tea à la main, avec ses amis.
J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à boire des bubble tea quand je suis arrivée étudier pour le lycée. Et mes potes, eux, ils avaient vraiment cet intérêt pour le bubble tea comme moi. C'est-à-dire que c'est devenu un peu notre truc à nous. Après les cours, on va prendre un bubble tea, quoi. C'est tellement un truc de niche, le bubble tea, que personne ne connaît sauf les Asiates. Et ça, c'est devenu un peu notre truc identitaire, on va dire. Enfin, je pense. Ça a été un peu un symbole qui nous unissait, quelque chose comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Après le repas, après le resto, en général, ça finit toujours sur un bubble tea parce qu'on a, avec mes potes, on se dit toujours, il y a toujours de la place pour un bubble tea.
Ouais.
Car de toute manière, c'est liquide. Quelques boules de tapioca, ça passe, quoi. Et au pire, si on a vraiment plus de place, on en prend un aux fruits, c'est un peu plus light.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est drôle de croiser des gens, d'autres gens avec des bubble tea aussi parce qu'on se dit un peu en mode, on a les mêmes valeurs. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à la hype autour du Starbucks. Parce que moi aussi, j'ai fait partie de ces gens, à l'époque, quand il y a eu le premier Starbucks qui arrivait à Paris, je crois que c'était à Châtelet. J'avais aussi fait la queue et tout pour, aller chercher mon Starbucks. Et j'ai pris ma photo. Et maintenant, je fais le parallèle et je me dis, c'est pareil, en fait, avec les bubble tea, on prend tous notre petite photo. Enfin, on va chercher notre bubble tea. Et tout comme les frappuccinos, ça coûte environ 5 euros. Et, pour le prix, t'es obligé de prendre une petite photo quand même pour marquer l'occasion. Et, enfin, le montrer sur le réseau, car c'est quand même quelque chose d'assez joli. Et maintenant, on dit plus, viens, on va prendre un bubble tea. Encore, auparavant, c'était vraiment un truc de niche, les bubble tea. Puisque c'était les bubble tea, si tu prends un bubble tea, c'est des boules de tapioca. Mais maintenant, tu peux dire, je vais chercher un bubble tea. Mais au final, t'as presque un frappuccino. C'est-à-dire qu'ils ont des trucs, des goûts genre cheese, des trucs aux fruits, de la gelée de coco, de la gelée d'herbe. Enfin, même si tu n'aimes pas ce qui est gluant, la gelée, etc., il y a des bubble tea qui font vraiment des choses comme Starbucks, en fait. Enfin, avec la petite chantilly au-dessus. Et du coup, c'est encore plus accessible, je trouve, qu'auparavant. C'est tellement large maintenant. Par exemple, je suis partie à Fancy You. Ils ont ouvert en janvier, je crois. Et quand j'ai bu leur bubble tea, mais je me suis vraiment dit, on dirait vraiment un Starbucks. Quand j'ai bu, il y avait vraiment des trucs, des latte crush, etc. Et je buvais, je me disais, ah, mais j'ai l'impression d'être un peu à Starbucks là,
ouais,
en termes de goût. En tout cas, je me suis vraiment, enfin, ça m'a frappé en particulier dans ce bubble tea là.
Alors, même si le bubble tea est originaire de Taïwan, il connote aujourd'hui tellement les boissons à emporter pour jeunes dans un certain nombre de pays asiatiques qu'il est devenu un symbole pour les diasporas. Un peu comme le café à emporter Starbucks, né aux États-Unis, mais aujourd'hui présent dans un grand nombre d'autres pays. Si le bubble tea est aujourd'hui aussi répandu dans certains pays occidentaux, c'est d'abord parce qu'il a transité par les États-Unis qui lui ont offert un sursaut de visibilité. Tout commence il y a un demi-siècle. Le bubble tea est introduit aux États-Unis par l'entremise des immigrés taïwanais, arrivés par vagues entre les années 60 et les années 90, à la faveur d'une loi de 1965 ouvrant l'accès au pays à de nouvelles populations. Beaucoup de ces familles immigrées s'installent en Californie, souvent à Los Angeles. Des personnes d'origine taïwanaise ouvrent alors des bubble tea shops. Les jeunes américano-taïwanais se mettent à en consommer régulièrement, jusqu'à embarquer d'autres camarades asio-américains dans cette mode, peut-on lire dans un article du magazine Eater, dont on vous met le lien en description de l'épisode. Toujours dans cet article, on apprend que la fin des années 90 a été un décor assez propice à la mode des bubble tea, notamment parce que c'est à cette époque-là que prospère ce qu'on peut appeler « lazy and pride », la fierté d'avoir des origines asiatiques, un phénomène porté par la deuxième génération, particulièrement heureuse de voir se déployer une véritable pop culture asiatique, avec les animés, les groupes de K-pop. Dans cette iconographie, siroter un bubble tea, c'était assumer ses origines asiatiques. Au-delà du moment même où la boisson est consommée, il y a aussi tout le cérémonial qui consiste à aller passer commande. Et puis cette paille qu'il faut savoir enfoncer énergiquement dans l'opercule de plastique pour y faire un trou, ce que je ne réussis du premier coup qu'une fois sur trois.
Mais moi, je galère encore avec la paille, là. Et ouais, je trouve vraiment que c'est super intéressant, ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas chercher un bubble tea, c'est pas juste le bubble tea, quoi. Déjà, faut être un peu connaisseur quand t'arrives. Faut que tu dises... moi, en général, ce que je dis, c'est sans glaçons, sucre moyen, non. Tu dois dire ta commande, le topping et tout. Ça peut être un peu intimidant. Ensuite, parfois, ils te passent aussi le petit badge, là, le beeper et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment super cadré, en fait. Je me rends compte, si tu peux pas rentrer dans un bubble tea, si avec confiance en tout cas, si tu ne sais pas comment ça se passe. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens qui aiment les bubble tea l'aiment autant, parce qu'on se sent un petit peu spécial. Ouais, et vraiment à la fin, prendre la photo aussi, pour moi c'est très important aussi, ça fait aussi partie de la cérémonie. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'était aussi que en fait, faire la queue pour le bubble tea, ça nous fait plaisir, parce qu'en même temps ça nous fait une activité, car en fait le moment où tu bois le bubble tea, c'est tellement court. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une descente très rapide. Je bois très, très vite, surtout quand c'est bon. Et en quelques minutes, c'est réglé. Alors que, justement, c'est pour prolonger un peu l'expérience bubble tea. Pour moi, faire la queue, ça fait partie de l'expérience. Tu discutes avec tes potes dans la queue et tout. Enfin, après, tu prends ton badge, tout ça. Enfin, vraiment, c'est tout ce côté-là que j'aime bien aussi.
Le bubble tea n'est pas le seul produit alimentaire utilisé comme manifestation d'une identité. Aux États-Unis, il y a aussi les biscuits Pocky. Utiliser la nourriture comme moyen de revendiquer un vécu commun n'a rien d'étonnant. La nourriture est une expérience quotidienne. Elle devient un langage qui se passe de mots pour porter une idée. Pour autant, disons-le, ces produits mainstream ne sauraient résumer les enjeux d'identité, d'acceptation et d'intégration des uns et des autres. Un bubble tea n'est pas politique en soi. Et c'est ce qui est parfois désigné sous le nom de boba liberalism, ou le libéralisme bubble tea. Autrement dit, une boisson pas très bonne pour la santé, sucrée, populaire, inoffensive, en bref, l'expression d'une certaine société du spectacle. Dans un épisode du podcast Plan A Magazine, qui s'intitule « Boba Liberalism versus Asian Left Twitter », que l'on pourrait traduire par « Le libéralisme du bubble tea versus le courant asiatique de gauche sur Twitter », un certain Redmond critique l'omniprésence des bubble tea dans l'imaginaire asio-américain. Pour lui, les t-shirts, les produits et marchandises culturelles sont devenus la principale manière d'affirmer son identité raciale. C'est le prolongement du capitalisme. Selon lui, on ne peut reconnecter avec ses racines en se contentant de boire des bubble tea dans un pays occidental. Rien de tout ça n'est utile si l'on ne prend également le temps de mettre les choses en perspective et par exemple réfléchir à l'impérialisme subi par son pays d'origine. Mais ces débats ont surtout lieu aux États-Unis, où le bubble tea est devenu entre-temps un tel symbole qu'on a peut-être voulu lui en faire dire trop, sans doute au point de faire avaler de travers quelques billes de tapioca à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la politisation de leur identité. À ce propos, Aveline nous dit quelques mots au sujet de la mastication des billes.
Après, je sais qu'il y a des gens qui les mâchent même pas. Donc, les gens qui n'ont jamais bu de bubble tea, n'oubliez pas de mâcher les boules de tapioca, c'est très important. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand c'est leur première fois, ils les avalent d'un coup comme des médicaments, quoi. Moi, je mâche bien maintenant pour, justement, pour bien digérer surtout. Et parce que quand je le bois trop vite, après, je me sens pas très bien en général. Ah, et ce qui est cool aussi avec les boules de tapioca, c'est que c'est sans gluten.
Je vous quitte avec la fin de ma discussion avec Aveline, qui raconte comment sa passion des bubble tea l'a même invitée à en faire elle-même chez elle.
Confinement oblige, oui. J'ai dû préparer le bubble tea chez moi toute seule parce que vraiment, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas bu et j'en avais juste tellement envie, sauf que j'habitais trop loin pour me faire livrer. Enfin, j'habite en banlieue, j'habite pas à Paris. Il n'y a pas de bubble tea autour de chez moi. Donc, j'ai suivi la recette de Nino's Home. Je crois que c'est la première recette qu'on trouve sur YouTube quand on tape recette bubble tea. Et franchement, j'ai fait sa recette et c'était super bon. Je recommande à tout le monde d'en faire chez soi car c'est vraiment pas fa... Enfin, ce n'est pas difficile, c'est juste assez long. J'ai passé toute la matinée parce qu'il faut les rouler un par un. Chaque bille, il faut les rouler et tout. Et c'est assez long. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut acheter directement des billes de tapioca sèches qu'on cuit genre 5 minutes. J'ai les petites jarres Emma, là, transparentes pour boire mes bubble tea. Sinon, je récupère, par exemple, à Galerie Match, leur bubble tea. Il est dans un verre qu'on peut réutiliser. Du coup, je récupère ça et je bois là-dedans pour faire genre, je suis au bubble tea shop. Mais j'avoue que le plaisir dans un verre chez soi, enfin, un verre même transparent chez soi, c'est pas le même.
Ouais.
C'est sûr qu'il n'y a pas la satisfaction de percer l'ouvercule.
Ouais.
Mais même comme tu dis, en fait, ce qui manque vraiment, c'est le cérémonial autour, en fait.
Oui, oui. Puis, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment un truc que t'es habitué à boire dans la rue en marchant, quoi. Il y a ce truc-là.
C'est ça. Bah, en fait, le goût est bon, mais finalement, moi, après avoir roulé toutes mes boules de tapioca et boire mon bubble tea, je me suis dit, oui, c'est bon, mais en vrai, est-ce que ça en valait la peine? Je suis pas certaine. J'aurais préféré vraiment l'acheter et le boire, je sais pas, dans la rue, dans un parc, en parlant avec mes amis. Moi, juste, je le bois comme ça chez moi toute seule. Je me suis dit, y a pas trop d'intérêt.
Merci à Aveline de nous avoir donné de son temps pour parler de bubble tea. Vous pouvez la suivre sur Instagram, Hunter Gourmet, pour pouvoir avoir accès à ses recommandations de bubble tea shops à Paris. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charline Yao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.